Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show.
Allez, bonjour à tous et bienvenue sur RKS pour votre nouvelle émission, le RKS Foot Time Show, consacré au football professionnel sous toutes ses coutures. Transferts, infos, rumeurs, ragots, débats, résultats, classements seront au menu. Dans cette nouvelle aventure, je serai accompagné de quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Kevin, votre animateur de l'émission Rien à Foot, malheureusement triste supporter rital de la Juventus. Salut Kevin, comment ça va ?
Salut Melvin, ça va et toi ?
Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal, je suis vraiment content d'être à la tête de cette nouvelle émission avec mes deux compères.
Moi aussi, très très ravi d'être accompagné de vous, Pierre et Melvin, pour cette émission.
Eh ben écoute, ça va être un plaisir. Justement, on a avec nous également Pierre, grand basketteur, professionnel presque du côté de la Bretagne, s'il me semble bien, un breton avec nous, fidèle supporter du Paris Saint-Germain, encore un qui doit penser qu'ils peuvent gagner la LDC cette année. Pierre, comment vas-tu ?
Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, les copains, et prêt à bien passer un bon moment, à bien s'amuser.
Eh ben voilà, vous l'avez compris, c'est encore en notre compagnie que vous allez vivre une heure 100% foot de folie, justement, au sommaire aujourd'hui. On va commencer par justement quelque chose qui a fait débat pendant ce début d'été, c'est la réaction des présidents de L1 face à l'arrêt du championnat de Ligue 1. On va parler aussi ensuite du cas Payet, un retournement de situation assez incroyable. On verra aussi la gestion catastrophique ou pas des contrats des joueurs du PSG, l'échange Pjanic-Arthur. On aura également le magnifique Liverpool qui a gagné ce championnat d'Angleterre. On en parlera. Et on finira par une petite spécialité qu'on vous concocte, ça sera un petit quiz. Messieurs, c'est le moment de démarrer notre premier sujet.
Allez,
d'accord.
C'est parti.
Avec vraiment ce qui nous a secoué avec la situation sanitaire, hein, les championnats européens et même mondiaux ont dû s'arrêter. Et nous sommes à l'heure actuelle le seul grand championnat européen qui n'a pas pu reprendre. Et les présidents l'ont fait savoir, notamment les présidents d'Amiens, de Toulouse, et le président lyonnais Jean-Michel Aulas.
Oui.
Kevin, toi, par rapport justement à cette prise de décision, quelle est déjà ton opinion par rapport à ça ?
Bah, moi, à l'époque où la décision elle sort, je crois qu'il n'y a aucun championnat qui reprend officiellement. Tous les autres championnats attendent. Et c'est à l'époque en plus où le coronavirus est peut-être au plus haut en France, où presque on a passé la vague énorme qui faisait quand même peur à beaucoup de monde, parce qu'il y a quand même des gens qui décédaient, hein, pendant que nous, on se posait la question de s'il fallait se retrouver au stade, etc. Et donc moi, à l'époque, je soutiens la décision parce que je me dis que c'est la meilleure décision à prendre, parce qu'on était face à de l'inconnu, on ne savait pas trop, même après les histoires de confinement, comment ça allait reprendre. Donc moi, j'étais plutôt pour au départ. Puis finalement, tous les championnats ont pris le contre-pied, ont repris. Avec pour moi le plus gros inconvénient, c'est surtout pour nos clubs qui sont encore engagés en Ligue des Champions. La question, ça va être sous quel rythme ils vont arriver si cette Ligue des Champions se joue au mois d'août. Donc c'est ça qui me fait entre guillemets un petit peu me dire bon, on aurait peut-être dû jouer quelques matchs et essayer de finir la saison. Après, je pense quand même et je soutiens les dirigeants de la FFF et du gouvernement qui ont dit qu'il fallait arrêter le championnat parce qu'à l'époque, je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Est-ce qu'ils auraient dû attendre un petit peu ? Oui. Après, aujourd'hui, personnellement, on regarde du foot, mais on regarde du foot sans supporters. Enfin, c'est un peu dommage. Et je trouve que c'est quand même bizarre. On demande à tout le monde, tous les pays européens, tous les citoyens européens, de respecter des distances de sécurité, de pas se faire la bise, de pas se serrer la main, etc. Puis on se retrouve dans des matchs de foot, dans une surface de réparation, à un corner où ils sont 20 dans la surface, à se tirer le maillot, etc. Ça fait un peu contraste. Donc voilà, moi, c'est ça que j'avais envie de dire par rapport à ce sujet-là.
Alors, est-ce que on comprend bien, c'est un peu, si tu veux, une prise de position de sécurité que toi t'as ouais. plus à la ouais. face à la crise sanitaire. Je vais demander à Pierre, est-ce que toi tu penses qu'il n'y a pas une forme aussi d'injustice pour les présidents de clubs, pour les clubs qui vont être relégués ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'injustice qui aurait pu faire réagir ?
Alors moi, si je partage assez ton avis, Melvin, je pense que la décision était Il fallait en tout cas communiquer là-dessus parce qu'il y avait beaucoup d'attentes derrière. Après, je pense que ça a été prématuré. Et on sait que là, il y a quelques années, il y a eu la création d'un syndic de première ligue qui a été mise en place, censé pouvoir défendre les intérêts des clubs de la Ligue 1. Je pense que le Premier ministre a eu une déclaration qui était cohérente par rapport à la crise sanitaire, mais extrêmement prématurée, dans le sens où on le voit aujourd'hui, les autres championnats ont repris. Alors je suis d'accord avec Kevin, dans le sens où aujourd'hui, respecter des distances de sécurité sur un terrain, c'est compliqué, on le voit. Les scènes de liesse après un but, quand ils se sautent dans les bras et que très rapidement ils se disent « Attends, mince, on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait faire ».
Puis sur attaque l'appui, à un moment donné, on ne peut pas respecter la distance de sécurité.
Ouais, c'est voilà.
Non, mais là-dessus, je vous rejoins à 200%. Pour autant, aujourd'hui, il faut savoir que derrière, il y a des droits télé. Il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte et qui fait qu'aujourd'hui, le préjudice à l'heure actuelle, il est estimé à peu près à 500 millions d'euros. C'est énorme. Et pour des clubs comme le Paris Saint-Germain, on en reparlera tout à l'heure plus en détail déjà sur l'aspect contrat, mais qui pour eux ont une manne financière suffisante, ça m'inquiète pas trop, mais pour des clubs un peu plus modestes, on parlait d'Amiens, Toulouse, ils se retrouvent dans des situations de précarité très importantes. Et c'est plus pour ces clubs-là aujourd'hui où je suis inquiet réellement. On parle du court terme, quel impact va être aujourd'hui pour ces clubs-là, mais dans la durée, ça risque d'être très très compliqué. Donc pour moi, voilà, aujourd'hui, l'État a communiqué prématurément sans avoir un moment de discussion avec les clubs qui, pour moi, ça aurait pu être, dans un premier temps, la première marche à suivre, voilà, à mon sens.
Mais bah attends, on parle de Amiens et Toulouse, des clubs qui ont justement, les présidents les a beaucoup entendus avec le père Aulas aussi.
Le père Aulas, c'est plus pour servir ses intérêts.
Hein, oui, mais Amiens et Toulouse, ils servaient aussi leurs intérêts.
C'est mon
aussi.
Père, s'il vous plaît, c'est mon père. c'est mon président, il va falloir... On va remettre les choses au clair.
Non, mais attends, par rapport à Amiens et Toulouse, on parle de Toulouse qui a quoi, 13 points en championnat en 26 journées, qui était premier à la descente, qui a quand même fait une requête avec Amiens pour rester en Ligue 1 et faire une Ligue 1 à 22 avec tous les inconvénients que ça va apporter l'année prochaine, parce que ça va faire une surcharge de matchs dont on n'a pas forcément besoin et dont les clubs n'ont pas forcément besoin. Tout ça pour faire plaisir à deux clubs qui étaient premiers à la descente. Amiens, ils étaient peut-être un peu mieux, ils auraient peut-être pu espérer se maintenir, mais ils n'ont pas gagné un match depuis le mois de novembre. Donc moi, je trouve que c'était vraiment mal placé. Après, c'est triste à dire, le championnat il s'est arrêté. Bah, sur 26 journées, ces clubs-là n'ont pas été au rendez-vous, tout comme Lyon n'a pas été au rendez-vous de l'Europe. Et pourtant, moi, j'aime bien Lyon, hein, mais ils n'ont pas été au rendez-vous pour être en Europe l'année prochaine. Ils n'auraient pas été mérités. Aussi bien, ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas bien joué. En plus de ça, les clubs qui étaient en face, ils méritent plus qu'eux. Donc aujourd'hui, Aulas, il avait proposer plein de choses. Je peux l'entendre juste sur le discours de dire, on va arriver au mois d'août pour jouer le huitième de finale contre la Juve et on n'aura aucun match dans les jambes. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est dommageable. Après, sur le reste, moi, je trouve qu'il n'est pas très légitime quand il demande des choses, quoi.
Oui, non, c'est certain. Je suis d'accord avec toi, Kevin. Mais après, Aulas, on sait, c'est un orgueilleux, c'est un... Bon, le personnage, parfois, il m'exaspère un petit peu, mais ça reste un excellent président et un père de famille, avant tout, c'est ça. L'OL, on peut pas dire, c'est une grande famille et ça, on doit l'admettre. Je trouve ça plus légitime, moi, le combat d'Aulas, à la rigueur, quant au fait de dire que sur ces dernières années, l'OL systématiquement finit fort et très rapidement, en fait, arrive à se classer parmi les classes européennes. On le voit, ça fait des décennies qu'ils sont en Ligue européenne. Par contre, je suis d'accord avec toi pour dire que Toulouse, pour moi, c'est... C'est pas logique aujourd'hui qu'ils mènent ce combat-là, qui pour moi est un combat, ils auraient dû l'avoir sur le terrain, sur les premières journées, et pas attendre entre guillemets un scandale sanitaire pour aller entre guillemets ramener sa fraise en disant « Eh ben nous, on aurait pu se maintenir ». Non, d'un point de vue comptable, d'un point de vue juste logique, Toulouse, ils auraient mieux fait de faire profil bas, à mon sens, et de descendre en bon perdant. C'est la seule chose qu'ils avaient à faire.
Ça va pas du tout, on est d'accord. Non, mais je pense on arrête l'émission, on est d'accord.
Non, mais je pense que... Est-ce qu'à un moment donné, nos présidents ne se sont pas trompés de combat? Parce que je pense qu'en fait, finalement, il y avait qu'un seul combat à faire, dans ce que j'entends de vous dire, c'est le combat financier. Parce que comme vous le disiez, les pertes sont colossales, mais réellement, vous savez que les droits télé se sont arrêtés. Il y a quasiment Canal+ qui n'a plus payé derrière les droits télé. Ça a été vraiment une catastrophe pour les clubs.
Oui, et puis les rentrées d'argent liées au stade, oui, on sait. Hein.
Voilà, donc aujourd'hui, moi, la question que je me pose, et j'ai envie de vous la poser, je me la suis toujours posée, pourquoi seulement 3 présidents se sont réellement manifestés? Parce que finalement, hormis les présidents de Toulouse, Amiens et Jean-Michel Aulas, on n'a pas entendu Jean-Pierre Rivière, on n'a pas entendu Nasser.
Parce que c'est des présidents qui tirent profit de la situation, parce que Nice... pareil, il fait un championnat plutôt moyen plus. Ils finissent au final en Europe, ils sont contents. Ils se disent, bon, bah ok, on n'aurait peut-être pas fini en Europe si on avait fini la saison. Lille aurait pu légitimement, et je crois que Gérard Lopez avait fait quand même 2-3 déclarations pour dire qu'ils auraient aimé finir un championnat pour essayer d'accrocher cette place en Ligue des Champions, mais c'est pas forcément beaucoup battu. À l'OM, on les a pas entendus, ils étaient très contents que ça se finisse et qu'ils finissent deuxième. Rennes, c'est pareil, on les a pas entendus, ils étaient bien contents dans leur fauteuil de troisième. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a très peu de clubs. On parle des clubs qui jouent le haut de tableau, mais même les clubs qui jouent le maintien, les clubs qui finalement ont assuré leur maintien sans finir le championnat alors qu'ils étaient pas loin de pouvoir descendre, finalement ils sont contents. Donc je pense que c'est pour ça. On a surtout entendu les entraîneurs, les présidents qui pensaient que sur la fin de saison ils auraient pu sauver leur saison. Mais après, pour rebondir une dernière fois sur Jean-Michel Aulas, il paye tout simplement des erreurs de choix commises depuis 12 ans, parce que pour moi ça commence avec Puel, et aujourd'hui erreur de recrutement, erreur de choix de manager, erreur, et beaucoup d'erreurs à beaucoup de niveaux. Ça fait beaucoup pour ce monsieur qui, a même s'il a fait du très très gros travail et qu'on le remercie pour les 7 titres à Lyon, depuis c'est quand même la grosse dégringolade, et aujourd'hui il paye un peu ça, et quelque part tant mieux, parce que j'en ai marre aussi que ce club se sauve sur les 3-4 dernières journées à se qualifier avec des champions, alors qu'on voit qu'il n'y a rien qui est mis en place pour essayer de faire progresser le Lyon à ce niveau-là.
Et par contre, on en parlera après le match retour contre la Juventus.
Mais bien sûr, il faudra en parler.
Parce que déjà, je pense que la Juventus a vraiment de la chance que ce quart de finale se déroule, hein, parce que c'est vrai que Jean-Michel Aulas, pour moi, avait raison sur le fait que ça aurait dû se jouer sur qu'un match, hein, vu que c'était.
Mais arrête, ça va pas, non.
Ah, bah non, mais à un moment donné.
Mais c'est pas juste. Tu finis le quart de finale, c'est normal. Dans l'autre sens, il aurait bien aimé que le quart de finale se joue, hein, même s'il avait pris 3-0. Hein.
Ça, c'est vraiment les Italiens. Je suis sûr que si la Juve passe et qu'ils sont éliminés en quart, ils vont dire, ouais, mais il n'y avait pas de match retour, tu comprends, on a perdu au match aller. Ah, c'était pas juste.
Non, n'importe quoi. Bon, on en parlera une prochaine fois.
Voilà. Bon, et un dernier point sur ce sujet, moi, qui m'interpelle vraiment, c'est... On critique beaucoup depuis quelques temps la gestion de la FFF et voire même de la LFP. Par rapport à la position de Le Graët, qui a été énormément approché par l'UEFA pour justement rattaquer le championnat de France, sa position était fermée alors qu'il aurait pu agir face à Édouard Philippe et face au gouvernement.
Je pense qu'il n'avait pas le... Alors, déjà, c'est un monsieur Le Graët, que j'apprécie pas forcément, donc je vais peut-être pas être très objectif quand je vais parler de lui, mais je pense qu'on ne lui a pas laissé le choix... En haut, hein. Je pense que Édouard Philippe, Emmanuel Macron, etc., lui ont clairement fait comprendre qu'il n'y aurait rien qui reprenait. Mais on a vu justement, à l'inverse de Jean-Michel Aulas, qui lui se bat pour ses convictions, même si ses convictions ne sont pas toujours justes, lui, il n'a aucune conviction. Donc on a vu effectivement que ce monsieur en avait pas beaucoup dans le pantalon. Quoi.
Il est champion du monde quand même.
C'est pas lui qui est champion du monde, c'est Didier Deschamps et les 23 qui sont partis. Lui, il n'a fait rien, il n'a rien fait du tout.
Non, mais à mon sens, oui, il aurait dû, pour moi, rebondir très rapidement, parce que c'est ça, en fait, qu'il aurait dû faire. Il aurait dû dire qu'il allait s'entretenir à court, moyen terme avec le ministre des Sports, avec le Premier ministre, afin d'essayer de trouver une solution qui soit tout aussi sécuritaire pour les joueurs, pour le public, mais peut-être qu'il soit dans un compromis un peu moins radical, à mon sens, parce qu'on est arrivé là-dessus, hein, sur une décision arbitraire prise prématurément, qui était légitime néanmoins compte tenu de la condition, de la situation sanitaire. Mais on le voit a posteriori avec la reprise du championnat d'Angleterre, la reprise du championnat d'Allemagne. Je pense que c'est ça qui fait le plus mal aujourd'hui au championnat de Ligue 1, c'est que tous les autres aient repris. Il n'y en a pas un seul qui nous a emboîté le pas, et c'est là, entre guillemets, où ça nous met encore davantage en lumière, avec fréquemment des prises de parole de l'UEFA, et j'en passe et des meilleurs, en disant, voilà, la Ligue 1 aujourd'hui est victime d'un choix prématuré. J'ai même entendu parler, alors j'ai pas eu le temps de le vérifier, mais qu'apparemment, les clubs français pourraient amener à passer tous, même le Paris Saint-Germain, par des tours préliminaires pour la prochaine Ligue des Champions, compte tenu du fait de l'arrêt prématuré. Donc il y a des conséquences économiques, des conséquences peut-être à terme aussi sportives, et c'est ça qu'en fait je vais regarder. Après, pour rejoindre simplement un point, parce qu'à terme on va basculer aussi sur le prochain sujet, mais quand tu disais tout à l'heure que, Melvin, pourquoi il n'y a eu que 3 présidents qui ont pris la parole, il faut se souvenir aussi qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu un rachat, pour le coup, des droits télé pour l'année prochaine, et ça c'est une manne financière conséquente qui à terme va arriver dans la poche des entraîneurs de Ligue 1 et des présidents de Ligue 1. Et ils avaient tous, à mon avis, qu'une chose en tête, c'est il faut se maintenir parmi l'élite pour toucher le pactole. si la condition, si, si le contexte sanitaire, pour le coup, ne dure pas trop. Et je pense que là-dessus, entre guillemets, quand tous les entraîneurs ont vu que ça s'était arrêté et que la plupart donc, des clubs étaient maintenus, avec certains qui avaient même le Graal d'accéder aux Coupes européennes, bah, ils se sont tous, entre guillemets, dit bah, « c'est peut-être un mal pour un bien », parce qu'on ne sait pas comment les choses auraient tourné sur 4, 5, 6, 7 journées supplémentaires.
Complètement. Alors pour conclure, est-ce qu'on peut dire qu'on a un sacré nombre de poètes avec Roxana Maracianu, avec, avec non mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné les autres championnats les fédérations ont bien dû se battre chez nous on s'est pas battu, excusez-moi, mais moi je le vois comme
c'est
ça,
clair. Oui, c'est vrai. Bah, après on va pas refaire le monde, c'est comme ça, ça sera, on faut penser à la saison prochaine maintenant et il faut tirer aussi les enseignements pour les clubs, ça apprendra à certains à bien démarrer la saison plutôt qu'à bien la finir. C'est important.
Et donc, pour
aussi.
Finir, la première sanction justement pour la Ligue 1, c'est l'arrêt du mercato pendant un mois, du 10 juillet au 10 août.
C'est vrai.
Ce qui va faire très mal dans l'animation, même sportive, économique et journalistique.
C'est la double peine
de tout le monde.
C'est la double peine.
Alors, justement, avec un club qui ne s'est pas du tout battu pendant cette période pour reprendre le championnat, puisque depuis de plusieurs années, il est un peu dans la galère et sous les feux des projecteurs, on va parler, messieurs, du cas de Dimitri Payet, qui, il y a quelque temps, refusait presque, mais c'est même sûr, il refusait de baisser son salaire de quelques pourcents pour sauver son club. Et là, il fait un geste incroyable en divisant par deux son salaire. Mais je crois que Kevin, il a un argument là-dessus qui est assez fort et pointu.
Ouais.
Messieurs,
on t'écoute, Kevin. Ouais,
moi, qu'est-ce que vous pensez du cas Payet?
Je suis très, très content qu'on parle de ce monsieur. Parce que, bon, après, on ne va pas parler aujourd'hui de ses qualités footballistiques qui pour moi, sont un petit peu surestimés. On en a un petit peu fait trop.
Ah, je suis pas du tout d'accord.
Bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet.
Et Kevin va nous dire que c'est le Ronaldo du championnat de France.
Non, pas du tout. Justement, il est pas bon.
Pas de langue de bois. Kevin.
Ok, il est pas bon.
Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est effectivement déjà scandaleux le fait de pas avoir aidé son club en implorant des oui, mais vous savez, moi j'ai des dettes. Alors certainement que quand on gagne des millions d'euros par an, on a aussi les dettes qui vont avec. Et ça, je suis d'accord.
On va pas pleurer.
Après, c'est maladroit de dire ça parce qu'on sait que quand on touche à l'argent, notamment dans un pays comme le nôtre où il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui pour eux, ce que gagnent les footballeurs, c'est déjà trop. Derrière, dire bah non, j'ai pas envie de renoncer à mon salaire. En plus, c'est le capitaine de l'OM, donc il est ce discours-là, c'est n'importe quoi. Derrière, je pense que je ne sais pas si c'est en interne qu'il s'est fait remonter les bretelles ou alors qu'il a eu une prise de conscience pour une fois et qu'il s'est dit « bon, j'aurais peut-être pas dû dire ça, il faut que je fasse un geste maintenant pour le club pour rattraper le coup ». Donc pour moi, c'est juste un retournement de veste mémorable un mois après de dire « bah oui, finalement, je vais diviser mon salaire par deux ». Alors avec en plus tout ce qu'on nous met autour là, en disant « oui, il va baisser de 40% la première année, de 30% la deuxième, il va renoncer à telle prime et machin ». Alors juste pour expliquer… Payet, il avait un contrat jusqu'en 2022. Donc, il lui restait 2 ans de contrat et il devait toucher 15 millions d'euros sur les 2 ans. Ça, c'est après, on se fera un avis sur la question. C'est pas encore le sujet. En fait, il va toucher 13,6 millions d'euros avec son nouveau contrat, mais pas sur 2, sur 4 ans. Donc, en fait, il a juste lissé son contrat,
salaire.
Son salaire sur les 4 ans. Je pense aussi qu'il s'est aussi dit un petit peu que déjà qu'il a eu un petit peu de bol de tomber sur un club qui va bien lui payer autant pour son statut. Il s'est dit peut-être qu'à son âge, il n'aurait peut-être pas une opportunité meilleure d'évoluer et dans un championnat quand même, dans un top 5 européen, en plus qu'il joue la Ligue des Champions. Il s'est dit, bon, de toute façon, je n'aurai pas meilleure proposition aujourd'hui qu'à Marseille, donc je vais accepter cette proposition. Et en plus, si ça peut redorer mon image, c'est encore mieux. Mais ce qui est triste, et ce n'est pas forcément que sur ce sujet-là, on pourra en parler tout l'été, de la réaction de certains supporters qui gobent tout ce qu'on leur dit. Je trouve que c'est vraiment très triste parce que... il faudrait juste un petit peu se renseigner sur les choses et parler un petit peu factuellement de ce qui se passe plutôt que de dire ah merci Payet et oublier un mois avant ce qui s'est passé avec les déclarations. Enfin bref, moi je
partage ton avis parce que j'ai l'impression que Payet, ça y est, c'est la bonne mère. Hein. On va mettre une statue à côté de Notre-Dame de la Garde, c'est devenu Dieu. Pierre, toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'à un moment donné, finalement, la réalité, c'est qui allait acheter Payet? Qui?
Bah, alors, bon, je suis, une fois n'est pas coutume, je suis pas du tout d'accord avec Kevin.
C'est pour ça que t'es là.
Donc, non. Mais alors, on peut parler d'argent. Kevin commence par dire, on va pas parler de son rendement sportif. À un moment, si tu parles d'argent, faut pas oublier que s'il est là, c'est parce qu'il fait du sport. Donc, t'es obligé de parler un peu de cette réalité-là. Marseille, donc, se classe, se qualifie pour la Ligue des Champions. Marseille a été porté par Payet et par Mandanda au cours de l'année dernière, parce que tu regardes pour le reste, ils n'ont pas un banc avec des joueurs exceptionnels comme peut l'avoir d'autres clubs comme le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, Payet, il faut quand même regarder aussi que faut avoir la mémoire courte, Kevin. Il y a quelques mois, Coman, il est à côté de ses pompes. Dembélé, il va de blessure en blessure. Griezmann, il est dans le dur au Barça. Et au moment où on commence à se projeter sur cette Coupe d'Europe qui arrive à grands pas, on commence à se dire, purée, faut pas que Payet se blesse, parce que sinon, la Coupe d'Europe, on sait pas comment ça va se passer.
Je suis même pas sûr qu'il l'aurait appelé.
Et bah, je pense pas. Pour moi, je suis pas du tout d'accord avec vous, les gars. Je suis certain qu'il aurait été appelé. Certain. Aujourd'hui, Payet, faut pas oublier non plus ce qu'il a pu faire par le passé et quel joueur il peut être sur certains matchs. Rappelez-vous le match qu'il fait stratosphérique contre l'OL, où il porte, excusez-moi, c'est Coronès, excusez-moi du terme, mais c'était le seul joueur, il a illuminé ce match, et à lui seul, il a annihilé totalement l'équipe de Lyon. En tout cas, je parle au niveau de leur défense par rapport à ses assauts. En coupe, sur la Coupe d'Europe qu'il y a eu en 2016, où il marche sur l'eau, il est classé premier joueur par rapport à l'indicateur de l'UEFA. C'est Griezmann qui, après, est mis comme le meilleur joueur, pour le coup, de la Coupe d'Europe. Mais rappelez-vous de son but contre la Roumanie, il a porté la France. À West Ham, il sort d'une saison exceptionnelle. C'est un joueur qui s'est hissé, pour moi, au rang des meilleurs. Alors oui...
Ouais, mais c'est un joueur par à-coup.
Oui, par contre,
c'est
là, je suis d'accord.
Par à-coup, là, je hyper irrégulier. Et il a une valeur qui est démesurée par rapport à sa régularité, son irrégularité.
Alors, pour moi, il faut comparer ce qui est comparable. C'est sûr que si tu compares la valeur de Payet par rapport aux moyens financiers d'un club comme Amiens, d'un club comme Toulouse ou d'autres clubs qu'on peut retrouver en France, certainement. Après, quand tu le regardes par rapport au quota des clubs européens, qui sont même les clubs anglais, qui ont des joueurs qui sont parfois bien meilleurs, bien mieux payés, que Dimitri Payet, avec un rendement où ils passent leur vie sur le banc. Pour moi, Payet, si tu le compares à ce qui est comparable, je dis pas que c'est un top joueur, je dis pas qu'il fait partie des meilleurs, je dis pas qu'il s'élève au rang des Messi, des Neymar.
Si, c'est un peu ce que t'as dit, il fait partie du Gotha.
Il a fait partie en son temps, notamment en 2016, il a fait partie des meilleurs joueurs.
Oui, c'est peut-être. Mais des meilleurs joueurs du championnat en France.
Non, à l'époque, il était en Angleterre. Moi, je me rappelle d'une action où il part du milieu gauche et où il transperce au travers de roulettes et qui va crucifier la cage de l'équipe adverse. Non, Payet, alors je suis d'accord, c'est des éclairs de génie, mais il est capable quand même d'avoir des gestes techniques, d'avoir une vista, d'avoir une lucidité et de savoir en plus faire briller ses partenaires, qui est assez exceptionnel, malheureusement, à mon sens. Et je suis d'accord avec vous, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvé dans des écuries comme le Real de Madrid, comme le Barça.
C'est parce qu'il n'avait pas le niveau.
C'est parce qu'il manquait de régularité.
Il manque de régularité.
Je ne suis pas d'accord avec toi.
Non.
Pourtant, je suis supporter parisien.
Ouais,
mais pour moi, regarde Dimitri Payet sur un autre angle. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il a fait et il fait et il fera encore, à mon sens, et j'espère que l'avenir me donnera raison, des choses exceptionnelles. Sincèrement, il a une qualité technique. Non, je ne suis pas d'accord avec toi.
Oui, mais
sincèrement.
Un bon joueur, il peut avoir des qualités techniques hors pair. S'il n'a pas le mental pour être dans la durée, c'est pas un grand joueur. Moi, je suis désolé là-dessus, je rejoins Kevin.
C'est
un bon joueur.
Mais c'est un joueur qui se regarde jouer, il se croit au-dessus de tout le monde. Alors, tu as raison, Pierre, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Moi, je me souviens très bien du sketch qu'il a fait pour partir de Nantes pour aller à Saint-Etienne, du sketch qu'il a fait pour partir de Saint-Etienne pour aller à Lille, et puis du sketch qu'il a fait à Lille pour partir à l'OM. Du sketch qu'il a fait pour partir de l'OM, parce qu'il a tout fait pour partir de l'OM pour aller à West Ham, et finalement pour faire des pieds et des mains, pour revenir à l'OM et dire c'est mon club de cœur, etc., etc. Alors oui, effectivement, il ne faut pas tout oublier. Et moi, je n'oublie pas justement que ce monsieur, soit il est schizophrène, soit il a une double personnalité, je ne sais pas, et il ne sait peut-être pas ce qu'il dit, mais en tout cas, pour moi, il a...
Ça y est. C'est le RKS Foot Time Show. Sinon, on fait de la psychiatrie. Mais bon, Kevin, à un moment donné, ça reste quand même un bon joueur. Ça reste quand même un bon joueur du championnat de France.
Oui, un bon joueur du championnat
j'ai
de France.
J'ai piqué l'orgueil.
J'ai compris. Schizophrène. J'ai compris.
C'était une image pour dire qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut. Et je pense qu'il essaye de regarder à un moment T, de se dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Est-ce que c'est de partir ou est-ce que c'est de rester ? C'est ce qu'il a fait toute sa carrière au détriment de pas mal de choses, de l'amour que les clubs ont pu lui porter, parce qu'à Saint-Etienne, il était adoré, à Lille, il était adoré, à Marseille, il était adoré, puis il est parti, puis il est
revenu. Oublie pas Nantes, hein, qui reste quand même le club qui était
son club formateur,
auquel il avait, qu'il a remercié chaleureusement lorsqu'il est parti, il a pleuré, il se disait presque Nantais, c'était sa ville d'adoption, parce que lui qui venait pour le coup des îles, arrivé en France, Nantes c'était sa ville d'adoption. Donc je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il ait pu retourner sa veste. Après, tu sais, il a aussi un manager général, il a aussi des conseillers, malheureusement, comme des joueurs, on parle d'italien, Verratti, bah, quand t'as un mauvais manager, quand t'as un mauvais conseiller, tu fais des choix qui parfois peuvent ternir ton image. Mais derrière tout ça, moi je te parle juste de manière objective, si on juge juste sa capacité, sa technicité, pour moi, Payet est un grand joueur de football qui est irrégulier, pas par rapport à un mental, là non plus je suis pas trop d'accord avec vous, parce que ce qu'il fait contre la Roumanie, il faut avoir le mental. Ce qu'il peut faire en Ligue Europa,
c'est la Roumanie.
Ce qu'il peut faire en Ligue Europa, c'est du mental. Ce qu'il fait contre l'OL, de porter son équipe, c'est du mental. Mais aujourd'hui l'actualité elle est là, regardez Griezmann, regardez d'autres joueurs qui passent totalement au travers et qui se liquifient par rapport aux enjeux. Aujourd'hui Dimitri Payet, je pourrais vous en citer des dates,
il a porté
à plusieurs reprises son équipe.
Griezmann aussi, alors pourtant j'aime pas Griezmann non plus, mais Griezmann il a quand même plus prouvé au très très haut niveau, parce qu'il a joué deux finales de Ligue des Champions, il a joué une finale de Coupe du Monde qu'il a gagné, il a joué une finale de championnat
Ligue
d'Europe
qu'il a gagné aussi.
Et la Ligue Europa il l'a gagné à lui tout seul contre l'OM, donc on peut pas les comparer. Griezmann aujourd'hui vit une période compliquée, on en parlera sans doute dans une autre émission, mais pour moi Payet c'est quelqu'un qui, c'est un bon joueur, il peut être brillant. Tu peux pas, du coup, parce qu'il est brillant une fois de temps en temps, de dire que ça c'est un grand joueur ou pas. Si c'est un grand joueur, il est brillant tout le temps.
Moi, j'ai qu'il aurait pu. Oui, mais à t'entendre parler, sincèrement, j'ai l'impression que tu parles de Ben Arfa, et là encore on aura l'occasion certainement d'en parler.
Mais Ben Arfa c'est quelqu'un de brillant aussi.
Mais Ben Arfa pour moi n'a rien à voir avec Payet.
C'est peut-être un manque d'intelligence, c'est différent. Sans dénigrer Ben Arfa, attention,
Payet était peut-être mieux entouré, plus intelligent. Je suis d'accord.
Plus structuré.
Bon, voilà. Et pour finir sur ce sujet, moi j'aimerais savoir un truc, parce qu'on a parlé que de Payet finalement, mais le choix de l'OM, est-ce qu'il est pertinent ce choix de garder Dimitri Payet? Parce qu'ils auraient pu lui dire, bah non, Dimitri on ne garde pas, c'est fini, on n'en parle plus.
Il
a une valeur marchande.
Non mais qu'ils le gardent, c'est cohérent, c'est leur capitaine, ils vont jouer avec des champions l'année prochaine, ils ont besoin d'un joueur de cette expérience-là l'année prochaine, parce que, comme Pierre l'a dit, il n'y a pas un très gros banc, et puis il n'y a pas des gros moyens qui sont déployés, parce que le fair play financier n'est pas très loin. Donc,
Tu le remplaces par qui la question elle est là.
Et avec Tovin qui joue sur une jambe, qui n'a pas joué déjà de l'année, et qui va rattaquer, on ne sait pas dans quelles conditions, parce que ça fait quand même bon moment qu'il est blessé, t'auras bien besoin d'un Payet, même à 32-33 ans, l'année prochaine.
Donc choix pertinent de l'OM.
Oui.
Eh ben ça y est, messieurs.
Ça me fait mal de le dire, mais oui, Kevin.
ils font des choix pertinents, ça peut arriver.
Oui.
Donc bon, justement,
ils composent avec leurs moyens, c'est ça.
Voilà.
Exactement. Bon, on va faire une petite pause musicale, d'accord. Et justement, derrière, on va passer au club ennemi de l'Olympique de Marseille avec un supporter parisien, et on va parler de la gestion des contrats des joueurs du Paris Saint-Germain dans un instant, messieurs.
Eh ben,
allez, à tout de suite.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot, ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.
Always know just what to say. I always look the other way. ashamed of what I've done, yeah. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. In your eyes, you lie, but I don't let it define you. Or define you. In your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you. Oh, define you.
RKS Foot Time Show.
RKS Foot Time Show.
Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.
Allez, on est de retour sur RKS pour votre nouvelle émission, le RKS Foot Time Show. Après les deux premiers sujets qu'on a abordés, on aborde le troisième qui est donc la gestion des contrats du PSG. Et pour ça, on a avec nous Loïc, fervent supporter du PSG.
Non, il a raccroché. Voilà.
Bah, écoutez, c'est simple. Ça s'appelle le direct. Bon, pendant qu'on va le rappeler, on va quand même commencer le débat avec Pierre, puisque je vais pas vous mentir, j'ai une vision d'horreur ici dans les studios, puisque Pierre porte en face de moi le maillot du PSG. Donc je me doute bien qu'il y a bien une raison à ça.
Ouais, tout à fait.
Il y a bien une raison à ça. Justement, Pierre, moi de l'extérieur, excuse-moi, la gestion des contrats du PSG, en sachant que le championnat est terminé et qu'ils vont jouer la Ligue des Champions, je comprends pas.
Bah en fait, je pense que, alors, ça va peut-être étonner certains, mais j'ai beau être fervent supporter parisien, c'est pas pour autant que tout est rose, tout est parfait, comme dans une idylle amoureuse. À un moment, il faut savoir aussi admettre quand les choses ne vont pas. La gestion des contrats que tu prennes cette année, mais en fait, c'est juste la même chose que sur ces dernières années. Elle est, à mon sens, chaotique. Chaotique, et ça témoigne, à mon sens, du fait que le club n'a pas besoin d'argent. Et ça se ressent à tous les niveaux. Aujourd'hui, sur cette gestion qui est chaotique, il y a quatre points. Il y a tous les départs libres, les jeunes aussi qui quittent le club, les joueurs qui sont non ou peu utilisés, comme Ben Arfa et j'en passais des meilleurs à l'époque, et les renouvellements de contrats qui sont trop tardifs, où tu arrives avec un Kurzawa qui est capable de faire doubler son salaire, parce que de toute façon, c'est soit il part sans rien laisser au club, soit il double son salaire. Donc, non, c'est catastrophique et chaotique, et c'est le cas depuis quelques années, malheureusement.
Alors, justement, je crois qu'on a Loïc en ligne avec nous. Salut Loïc.
Salut.
Bon, comment ça va déjà, Loïc?
Bon,
écoutez, on se pose une question, Loïc. C'est nous, on trouve la situation et la gestion des contrats du PSG, ton club favori, assez mauvaise dans la gestion, parce que il y a la Ligue des Champions qui court encore, il y a le risque de démoralisation de certains joueurs comme Thiago Silva, comme Edinson Cavani, qui refusent potentiellement à la base de pas jouer. Comment toi, supporter du club, tu vois les choses?
Bah moi déjà je suis assez mécontent de la gestion de ces joueurs-là, parce qu'aujourd'hui on arrive, comme vous dites, à une Ligue des Champions au mois d'août, et qu'il n'y a rien qui a été fait pour conserver ces joueurs-là. Après, Kurzawa il est prolongé de 4 ans, mais en fait c'est juste pour avoir assez de joueurs pour disputer la Ligue des Champions, des joueurs formés en France. Parce que quand on a perdu Kouassi à Ouchi, ça fait deux joueurs en moins dans l'effectif professionnel du PSG.
Ouais, c'est vrai.
Donc voilà, c'est une gestion que Leonardo, je pense, essaye de reprendre, mais qui avait déjà été enclenchée avant son arrivée.
Alors justement, tu parles de Leonardo, Loïc. Moi, ça m'étonne et ça me surprend énormément avec Leonardo à la tête qu'il se passe ce genre de choses.
Ben moi, ça m'étonne pas.
Il est mauvais.
Bah pour moi, c'est
on est schizophrène.
On en a toujours un peu trop fait sur Leonardo, qui est peut-être un bon dirigeant.
Oh là là.
Certains disent que c'est le meilleur au monde à l'heure actuelle, etc. Bah, la preuve, encore une fois, on va laisser parler les faits. Ouais. Mais peut-être que sur les transferts, il est bon. Alors après,
excellent communicant.
Je vous laisserai analyser les transferts de Leonardo. Il sait faire venir des gens qui viennent d'Italie. Alors je sais que c'est le meilleur pays du monde avec les joueurs les plus talentueux, sans doute. Mais en fait, il a surtout un gros réseau en Italie. Et si tu...
Ça y est.
Pas que pour moi, s'il te plaît. Non, mais pour moi, il a un gros réseau en Italie et ça s'arrête là. Mais là où il faudrait qu'on l'attende, c'est sur les prolongations de contrats intelligentes et notamment des jeunes, parce que je trouve que c'est désastreux. T'en penses quoi, Loïc?
Vas-y, Loïc.
Mais après sur les jeunes, Kouassi et Aouchi, ils sont au club depuis quand même tout petit, donc. Il y a 2-3 ans, Leonardo n'était pas au PSG, donc il n'a pas pu prolonger ces contrats-là avant que Tourelle les mette sur le terrain, quoi. Parce que là, sinon, on a fait jouer Kouassi sur des gros matchs, mais en fait, on les a fait jouer, mais en fait, on les a juste mis en avant pour se les faire prendre après, quoi.
Mais qu'est-ce qui a empêché Leonardo de prolonger Kouassi?
Mais là, il a fait signer 3 jeunes, là,
ouais.
Leonardo, jusqu'en 2025. En fait, c'est ce qu'il va faire avec tous les jeunes. Avant de les mettre sur le terrain, il va falloir qu'ils signent un contrat pro, parce qu'après, les agents, les commissions... Tout ça, c'est quelque chose que Leonardo ne peut pas lutter avec les agents de joueurs qui demandent maintenant des sommes énormes.
Loïc, comment t'expliques qu'on parlait tout à l'heure de l'Olympique Lyonnais, hein, même si je suis supporter, là, je suis vraiment neutre. Comment t'expliques qu'un club comme l'Olympique Lyonnais arrive à garder ses joueurs formés au club et les revendre des fortunes, et justement qu'un club comme le Paris Saint-Germain n'y arrive pas?
Parce que déjà, Lyon, c'est une institution qui est là, ça fait 20 ans qu'il est au club. Nous, Leonardo, je pense qu'il va falloir juger dans 2-3 ans où il y a d'autres jeunes qui vont arriver. Moi, sur Kouassi et Aouchi, j'avais vraiment pas d'espoir qu'ils restent au PSG. Moi, qui connais un petit peu, je savais qu'ils allaient aller ailleurs. Mais sur les prochains jeunes qui vont sortir, bien évidemment, on va l'attendre au tournant, parce que là, c'est impossible de payer des formations, parce que former un joueur, ça coûte quand même de l'argent pour un club. De toucher 0 euro sur des joueurs qu'on forme, et en plus, qui vont dans des gros clubs comme le Bayern de Munich, c'est quand même... je trouve ça aberrant.
Moi, je suis d'accord.
Des joueurs comme ça, de former des joueurs pour d'autres clubs européens qui, en plus, si un jour on veut gagner la Ligue des Champions, vont sûrement nous affronter, quoi.
Je vais juste rajouter un truc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Lolo. Mais le problème pour moi est... Il y a un signal que le PSG a envoyé à ces jeunes il y a pas très longtemps, qui a été notamment celui de supprimer la réserve. Pour moi, ça, c'est un vrai signal comme quoi le PSG ne compte pas du tout sur sa formation.
Le vrai problème de la réserve, il est ailleurs, Kevin. Enfin, moi qui ai grandi en région parisienne, c'est que quand tu joues en CFA au PSG, déjà, tu joues dans des poules où tous les matchs, c'est des matchs au couteau, parce que tout le monde t'attend, parce que moi, j'ai déjà vu des matchs de CFA, j'allais voir les jeunes jouer. Mais c'est pas un championnat fait pour eux, en fait.
Ouais.
Ce qu'il faudrait faire, à la limite, si on peut comparer et que l'Espagne fait très bien, c'est que les équipes B peuvent aller jusqu'en série B ou jusqu'en au championnat des deux, quoi.
Tu vois. D'accord. Après, mais je savais pas ça.
Mais en CFA, c'est compliqué. Je t'avoue que.
D'accord.
Et même pour connaître un peu les causes du PSG en U15, U17, U19 nationaux, les meilleures équipes, ils les font pas jouer dans les championnats.
Ah ouais.
Ils font des amicaux entre centre de formation le mercredi en pleine semaine. Mais les meilleures équipes, ils les mettent plus. Parce qu'en fait, ils se faisaient à chaque fois.
Tu mets en danger.
C'est important d'avoir ce genre d'infos, parce que ça peut changer beaucoup.
Quand t'as pas cette information-là, après.
Est-ce que pour vous, toi Loïc, on va te poser la question, est-ce que tu penses que Tuchel est responsable aussi de cette situation? Parce que, mine de rien, hormis un ou deux joueurs, il les a pas fait plus jouer que ça, ces jeunes.
À quoi si, il a quand même bien fait jouer.
Kouassi, le latéral droit, il a quand même...
Kouassi, Dagba, Kimpembe, mais ils n'ont pas eu un temps de jeu non plus phénoménal.
Moi, je pense que Tourelle, mais après, il y a une chose qu'ils ne peuvent pas maîtriser, ni Leonardo, ni Tourelle, c'est les agents de joueurs qui font le bordel aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Qui est vraiment... ça pourrit de foot.
Oui, c'est vrai.
Il a été conseillé, parce que moi, je pense que Kouassi, s'il a un agent qui pense un peu à son joueur, il reste au PSG.
Oui, c'est clair.
C'était un vrai titi parisien.
Mmh. Ah bah c'est clair.
De la région parisienne. Et je vais même aller plus loin. Moi qui connais son club formateur Fontainebleau, bah, c'est pas qu'ils sont dégoûtés, mais un petit peu, parce qu'ils ne touchent aucune indemnité sur ce transfert. Hein.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Ça, c'est vrai que c'est pour le club formateur, c'est vraiment catastrophique.
Ouais, c'est dur. Mais après, je rejoins assez Loïc sur deux choses. C'est le fait qu'on ne peut pas tirer sur Tuchel, on ne peut pas tirer non plus sur Leonardo, qui pour moi sont des personnes qui ont un rôle mineur dans tout ça. Il y a forcément l'enjeu économique qui prime. Leonardo, il arrivait tardivement, hein, mais après, on pourrait faire le récap. Je m'étais amusé l'autre fois à comptabiliser entre les Rabiot, les Coman, les Zlatan, les Cavani maintenant, Van der Ville à l'époque, Choupo-Moting, Ben Arfa. Alors, parfois, c'est 10, même Sirigu. On parle d'italien, c'est pour toi, ça.
Enfin, c'était 4 millions
à l'époque. À l'époque, non, mais c'est 4, 5, 6 millions par-ci, par-là. Et là, en fait, sur les noms que je vous ai donnés, ça fait 11 joueurs, 200 millions de valeur marchande qui se sont envolés parce qu'ils n'ont pas voulu les proroger, parce qu'ils n'ont pas voulu les prolonger. Donc, on sent que le Paris Saint-Germain, parfois, a un comportement d'une entreprise qui n'a pas besoin d'argent. Et moi, en fait, ce qui m'attriste le plus...
Mais parce que c'est la vérité, Pierre.
Oui, c'est la vérité. Mais moi, ce qui m'attriste le plus, ce n'est pas les départs libres. Parce que oui, c'est de l'argent, mais pour un club comme le Paris Saint-Germain, on ne va pas faire les fines bouches. Ce n'est pas le problème. Moi, ce qui me gêne, c'est les jeunes qui partent. Yassine Adil, Aouchi, Kwasi, même Ferland Mendy qui était parti, Moussa Dembélé aussi, qui maintenant explose à Lyon.
Mais c'est pas dans la culture du PSG.
Oui, mais
alors,
ça, il faut que ça change. Il faut que ça change parce qu'on parle de clubs comme Lyon et tout à l'heure Loïc le disait à juste titre, il parlait d'institution. Si on veut créer une institution, surtout que là maintenant il y a le nouveau centre d'entraînement qui est en train d'être créé par le Paris Saint-Germain, il va falloir qu'on mette l'accent sur ces jeunes parce que les jeunes c'est l'avenir, c'est l'image et en plus de toute façon aujourd'hui les compétitions sont faites, comme il le disait tout à l'heure à juste titre, encore une fois Loïc, par rapport à la gestion de Kurzawa. C'est que si tu n'as pas des joueurs français formés en France, tu ne peux pas te qualifier avec le nombre de joueurs escomptés. Et ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, pour moi, ça doit être le fer de lance d'un club comme le Paris Saint-Germain s'ils veulent durer, perdurer et vraiment recréer une vraie image de marque. Pas juste une image économique, pas juste Paris Saint-Germain, c'est Louis Vuitton. Non, il faut derrière avoir une âme. Et pour avoir une âme, il faut avoir des jeunes. Des jeunes qui ont grandi dans les quartiers et qui continuent à rester dans le club dans lequel ils ont grandi.
Parfait, je ne dirais pas mieux.
Et en plus, moi qui connais bien un petit peu la région parisienne, moi quand j'avais des joueurs qui étaient convoités par le PSG ou par qui avait le PSG dessus, la priorité des parents, c'était pas de l'envoyer au PSG. Hein.
Ah ouais?
Parce qu'ils savaient comment ça se passait. Hein.
Ah ouais,
la plupart des joueurs, j'en ai aucun aujourd'hui que j'ai eu qui joue au PSG. Hein. J'en ai aucun. Ils sont tous à Rennes, Saint-Etienne, Nantes, ou des choses comme ça. Quoi.
Donc, parce que pour eux, il n'y a pas de possibilité au PSG de pouvoir évoluer.
Exactement.
Ouais. Et d'ailleurs, si je peux rebondir juste sur ce point-là, c'est que parfois, on le voit, le PSG essaye de réagir, mais maladroitement. Pour moi, Aérola, c'est un cas un peu maladroit, où ils ont envie de mettre en lumière le centre de formation et de garder un gardien. Pour moi, de tout temps, et je l'ai vu depuis le départ, il n'avait pas le niveau. Il n'était pas bien meilleur que Kevin Trapp, c'était pas un gardien de classe mondiale, mais en fait, on l'a gardé dans nos pattes parce que c'était un joueur issu du centre de formation. Et malheureusement, pour moi, c'est là où ça doit être dangereux. C'est là où il faut faire attention, ça peut être dangereux. C'est si on veut vraiment mettre en lumière le centre de formation, quitte à un moment à ternir un petit peu le niveau de jeu de l'équipe principale. Et il faut mettre en avant des joueurs comme Coman, comme Kipengue, comme tous ces joueurs qui ont le niveau, comme Rabiot aussi. Le problème, c'est Rabiot, renouvellement trop tardif. Il y a un moment, on est pris en otage.
Aussi, sur Rabiot.
Et maintenant, il joue comme un club.
Il y a Louis qui veut dire un truc. Louis qui veut dire un truc.
Rabiot, quand même... Enfin, moi, j'ai eu la chance de le voir un peu évoluer en jeune. Sa mère, elle lui a détruit sa carrière.
On en parlait, l'entourage, c'est une catastrophe.
Ouais, dès 13 ans, 14 ans, sa mère intervenait dans les séances d'entraînement et tout.
C'est incroyable. Hein.
Ils ont dû l'interdire pour venir pendant les séances. Même.
C'est incroyable.
Ah, mais le pauvre avec ses frisottis, comment veux-tu qu'il réagisse avec sa petite tête de bon
garçon ?
Après,
sur Leonardo, s'il y a bien quelque chose que je ne lui reproche pas, c'est le départ de Rabiot parce qu'il est arrivé trop tard pour pouvoir intervenir dedans. Donc,
Et puis moi, ce que j'aime bien Leonardo, après, je pense qu'il va faire des erreurs comme tout le monde. Hein.
Il ne
peut pas tout faire bien. Mais tu vois, sur la gestion de Thiago Silva, par exemple, il a été clair. Il a dit, voilà, c'est pas un contrat. Il faut tourner la page. Mais par contre, il lui a bien prolongé son contrat jusqu'à la fin août pour faire la Ligue des Champions.
Oui, mais ça, c'était cohérent.
Justement, c'est...
Après, Cavani, je pense que Cavani, il veut pas. Parce que tout simplement, il a été baladé à gauche, à droite.
C'est vrai.
Et il dit que moi, je vais pas faire l'effort jusqu'au fin août. Moi, j'ai joué à gauche pendant que Zlatan était là. Cette année, j'ai pas trop joué, donc je verrai pas pourquoi...
Oui, et puis. Ouais, je suis
après,
d'accord.
C'est une petite revanche personnelle, mais après, moi, je lui en veux pas. Hein.
Non, mais on en fera peut-être un sujet sur Cavani, parce que moi, j'ai plein de trucs à dire sur ce joueur qui a été une serpillière pour le club pendant longtemps.
Et qui a été un grand joueur.
Exactement.
Et pour finir, pour clôturer ce débat, est-ce que, messieurs, et toi, Loïc, tu penses que ça va avoir un impact sur les performances sportives du PSG en LDC ?
Non, je pense pas. Je pense que s'il y a une année où on peut gagner avec des champions, c'est cette année.
Ouais, ok.
Heureusement que t'as l'antenne, je crois que sinon j'aurais raccroché.
Non, mais c'est vrai. Non, mais pour le coup, objectivement, il a raison. Je pense que cette année, c'est un contexte qui est tellement particulier qui peut
sur un match en plus.
Qui peut être favorable au PSG, mais à 200%.
Sur deux matchs, c'est possible.
Ouais, c'est ça.
En
c'est
deux
que...
matchs, on est en finale.
En deux matchs, vous êtes en finale.
Ouais.
J'ai presque envie de dire, au-delà de « ils peuvent », c'est « il faut ». Il faut presque qu'ils gagnent cette année pour conserver Mbappé, Neymar et j'en passe et des meilleurs. Là, on arrive à un moment clé. Et ces joueurs-là, ces négociations de contrat se feront aussi sur le résultat de la Ligue des Champions.
Bon.
Exactement.
Et ben, en tout cas, Loïc, merci pour ton intervention.
Ouais, merci Lolo.
Il n'y a pas de souci.
À bientôt.
Allez,
et puis à bientôt. Allez, merci.
Bye.
Ben voilà, je crois qu'on a appris pas mal de choses finalement de l'interne du côté de l'Île-de-France,
hein,
comment
ouais.
ça se passe au niveau de la formation des jeunes.
C'était intéressant.
C'était plutôt pertinent.
Ouais.
Messieurs, on va passer au quatrième sujet avec, pour moi, je vais vous dire, cet échange assez étonnant entre Miralem Pjanic et Arthur du côté de Barcelone, la Juventus.
Ouais.
Moi, j'ai du mal à comprendre. Je vais vous dire honnêtement, je suis perdu. La Juventus, des fois, ils font des choses qui me surprennent.
Je partage, je pense que Kevin aura beaucoup à dire. Je vais prendre le contre-pied de tout à l'heure. Il a commencé à parler, donc cette fois, je vais m'exprimer.
Fais-toi plaisir.
Aujourd'hui, moi, on parle de deux clubs qui ont des problématiques, qui sont quand même assez importantes. À mon sens, aujourd'hui, on a d'un côté le problème de la Juventus, qui sont dans cette optique constante, et à mon sens, ça, c'est pas une bêtise, de vouloir renouveler les Buffon, renouveler toutes ces personnes-là, et de remettre des jeunes. Sauf qu'ils sont dans une course perpétuelle aux jeunes, De Ligt, on a maintenant Rabiot qui est arrivé, maintenant Arthur, donc ils sont en train de rajeunir l'effectif, et ils se retrouvent en fait avec deux générations qui ont quasiment 10 ans d'écart, à un moment à vouloir trouver une âme et arriver à trouver un chef d'orchestre qui sera capable d'harmoniser ses équipes, cette équipe en l'occurrence. Moi, je trouve que c'est dangereux de faire venir un joueur comme Arthur et de faire partir un maître à jouer comme Pjanic, qui pour le coup a vraiment l'identité du club de la Juventus, qui faisait partie parfois des rares satisfactions avec ce relais au milieu de terrain, et de faire partir en fait cette carte à jouer dans un autre club pour prendre du sang neuf. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui le problème de la Juventus, il est pas là. Pour moi, il y a un manque d'équilibre flagrant, il n'y a pas de cohésion, à l'inverse d'un club comme Liverpool, hein. On parle de deux clubs qui sont à peu près sur la même strate, où Liverpool, il n'y a pas de top star, mais il y a un vrai équilibre, c'est fluide, c'est du beau jeu. La Juventus, on a l'impression qu'à chaque fois qu'ils doivent passer une ligne, c'est comme quand tu n'arrives pas à jouer au baby-foot, bah la balle, elle ne circule pas entre les lignes. Et ça, c'est une vraie problématique. Et d'enlever pour moi, à mon sens, un joueur comme Pjanic, eh ben, tu vas accentuer encore plus ce phénomène. De l'autre côté, le Barça, pour moi, c'est encore un autre sujet. On voit bien que la gestion est chaotique. Griezmann, ils n'arrivent pas à l'intégrer. Umtiti, c'est compliqué. Dès qu'ils font venir des joueurs comme Vidal qui se retrouvent à rester sur le terrain et puis à donner les bouteilles d'eau à leurs collègues, aujourd'hui, le Barça, c'est pas nouveau. On pourrait même remonter à l'époque de Ronaldo qui part, Eto'o qui part pour faire venir Zlatan. Tout ça, voilà, pour moi, ça date pas d'hier. Et aujourd'hui, c'est un vrai problématique. Et pour moi, c'est un échange qui arrange personne, à mon sens. Voilà.
Bon, Kevin, je vais te laisser rebondir parce que je te sens bouillir
là-dedans. Oh là là, oh là là, il a tout mis là. Oh là là,
il a tout donné.
J'ai l'impression qu'il parlait de Benevento là.
Qui remonte.
Ouais, grâce au grand Pippo, d'ailleurs, hein, Pippo Inzaghi. Non, mais Pierre, le club, il a quand même dit que le club avait pas d'âme. Alors, venant d'un supporter du PSG.
Alors, l'équipe, à mon sens, c'est l'équipe. Le club, non, je me permettrai pas. Si je l'ai dit, c'était maladroit, je parlais vraiment de l'équipe.
Bon, ça va alors. Ça va. Non, je pense que c'est un échange de bons procédés entre deux clubs qui avaient deux problématiques et qui vont pouvoir... alors après, on verra. Le terrain parlera et dira si c'est... qui a été gagnant, finalement.
Mais là, je veux que ça soit toi qui parle, donc je t'écoute.
Non, mais... Moi, j'adore Pjanic et j'adore tout ce qu'il a fait depuis qu'il est là. Je pense que c'est un des rares milieux de terrain aujourd'hui en Europe et dans le monde qui a ce profil-là de chef d'orchestre et qui le fait très bien. Cette année, il a été un peu moins bon. Bon, c'est pas très grave. Il a 30 ans. La Juve l'a acheté 32 millions d'euros. Ils avaient l'opportunité, et d'engranger et de prendre 60 déjà parce qu'ils en ont besoin parce que la crise du Covid va faire que de toute façon ils pourront pas pouvoir faire des grosses opérations, donc il fallait faire des grosses ventes. Aujourd'hui je pense que 60 millions d'euros pour Pjanic, je vois pas beaucoup de clubs capables de te les donner, surtout avec la crise qu'il y a eu, et surtout pour un joueur de 30 ans qui sort d'une saison assez moyenne quand même, même si j'adore ce joueur. Arthur, je connais pas parce que je regarde pas le Barça.
C'est un jeune joueur, c'est un profil qui est complètement différent.
Ouais, 23 ans.
Je te laisserai en parler, Melvin, parce que tu en parleras peut-être mieux que moi. Mais Arthur, je connais pas. Le Barça avait des problématiques aussi. Ils avaient besoin de rentrer 70 millions d'euros avant, je crois, le 30 juin.
C'est un passe-passe
comptable. Voilà, avant le premier jouet. Il fallait que ça se fasse. Au départ, ça devait être qu'un échange. Finalement, c'était un échange déguisé en deux transferts. La Juve, finalement, va récupérer pour 12 millions d'euros un joueur de 23 ans qui est prometteur, qui est international. Qui quand même a joué au Barça. On peut pas dire qu'on a acheté un remplaçant, parce que ça, j'ai quand même regardé, il a quand même joué pas mal de matchs. Donc moi, je pense que c'est financièrement pas une mauvaise opération. Je pense pas qu'il a été recruté pour remplacer Pjanic. Le remplaçant de Pjanic, on l'a déjà. Il s'appelle Rodrigo Bentancur. Il fait une super saison et c'est lui le remplaçant de Pjanic pour la saison prochaine. Je partage pas l'avis de Pierre sur l'écart de génération, etc. On fait peut-être pas une très belle saison. On a été nul à chier contre Lyon. Je pèse mes mots. Contre Naples, on a été nul. Mais Naples, on revient juste du Covid. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Il fallait reprendre le rythme. Les contenus de match sont bien meilleurs depuis deux ou trois matchs. Ce qui fait plaisir, c'est que les têtes d'affiche Dybala, Ronaldo sont là, sont en forme. J'ai vu un très bon De Ligt depuis le retour. Donc moi, je reste persuadé que cette équipe, elle a peut-être pas les armes pour gagner la Ligue des Champions parce que je vois des équipes bien meilleures. Et bien évidemment que Liverpool est bien au-dessus, mais pas forcément que de la Juve.
La Juve va s'arrêter en 8e.
Mais elle s'est pas déjà arrêtée en 8e d'ailleurs.
Non. Ah non, ça c'est ce que voulait Jean-Michel.
Ah bon, mince.
Non, il y a un match retour et il faut pas sous-estimer cette Juve sur le match retour parce que c'est une équipe qui a de l'orgueil, c'est une équipe qui a du répondant, qui réagira. Moi, j'ai jamais été inquiet sur ce match retour parce que la grosse performance de Lyon est surtout due à la match fantomatique de tous les Turinois. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours nuancer les défaites et les victoires des équipes. Lyon n'est pas devenu bon du jour au lendemain après avoir été nul en championnat pendant 26 matchs.
Ils ont quand même fait un bon match.
Ils font un bon match parce que la Juve est nulle.
Mais ils font un bon match quand même.
Ils font un bon match quand même. Ils font un match de Ligue des Champions. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à pas mal de monde quand on m'a appelé pour me charrier un petit peu. J'ai dit, ils ont joué un match de Ligue des Champions. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait pour jouer un match de Ligue des Champions.
Mais ils sont tombés contre une Juve qui était mauvaise.
Qui était très mauvaise.
On est d'accord. Justement, moi je vais vous parler d'Arthur parce que je connais un petit peu ce joueur. Ouais. Et vous allez comprendre pourquoi je comprends pas cet échange. C'est qu'Arthur, c'est un joueur de 23 ans, d'accord, qui est brésilien, qui a déjà joué quand même 72 matchs depuis son arrivée de Grêmio du Brésil à Barcelone, donc depuis 2018, c'est quand même pas mal.
Une des rares satisfactions, à mon sens, au milieu de terrain, d'ailleurs.
Voilà, parce que en fait, ce joueur est arrivé justement pour remplacer Xavi Iniesta. D'accord. Et c'est exactement le profil de Xavi.
Oui, je suis assez d'accord.
Pourquoi Barcelone laisse partir finalement ce joueur alors que depuis qu'il n'y a plus Xavi Iniesta, il n'y a plus de jeu au Barça, faut dire la vérité.
C'est clair.
Enfin, depuis qu'il n'y a plus Xavi Iniesta et Guardiola à la tête.
Et j'ai peur d'ailleurs que pour Pjanic, ça soit pareil.
Moi, c'est ça qui me fait peur. Est-ce que Pjanic va trouver sa place dans ce système de jeu? Peut-être. Et est-ce qu'il va se faire plaisir? C'est ça aussi.
Ça va dépendre comment il l'utilise. Pour moi, le problème de Pjanic, c'est qu'il est bon que quand il joue un petit peu devant la défense, un peu en retrait. À ce poste-là, il y a Busquets quand même.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Et ça dépend. Alors, je sais qu'avec la Roma, il pouvait jouer un peu plus haut et il a bien joué. Donc on va voir. Je pense que le Barça était à la recherche d'un profil comme ça qui distribue le jeu, qui arrive un petit peu à orienter, à jouer en diagonale, etc. Donc je pense que le Barça fait pas une mauvaise affaire. Après ça dépend, c'est toujours pareil, ça va dépendre comment tu l'intègres, comment tu l'utilises. Et on sait qu'en ce moment le Barça c'est pas forcément le club qui envoie le plus de signaux positifs à ce niveau-là.
Donc pour vous ça reste une manne sportive finalement qui est surtout sur la manne de trésorerie.
Quoi. C'est un passe-passe comptable.
On est d'accord, on est sur un passe-passe comptable plus que footballistique.
Et à mon sens, Pjanic tirait beaucoup plus et tenait beaucoup plus du Pirlo que de ce que peut avoir Arthur. Et oui, c'est bizarre, on a l'impression que Le milieu de terrain, Arthur, va pas du tout s'acclimater, à mon sens, à première vue. Encore une fois, là où je rejoins Kevin, c'est le terrain qui parlera. Hein. Et bon, j'ai un peu de mal à comprendre. Et puis, tu parlais de Pjanic tout à l'heure. C'est, est-ce qu'il va se faire plaisir? Est-ce qu'il va réussir à s'harmoniser avec le collectif?
Bon, quoi, moi, je vais rajouter... la Juve et le Barça, ça joue pas bien au foot. Donc,
ouais, non, c'est clair. Et je vais rajouter une question, c'est combien de temps? Parce que, comme disait Kevin, il a 30 ans. Donc, pour un club comme le Barça qui se cherche et sur un projet sur le long terme... Voilà.
Mais de toute façon, c'était le moment pour lui d'aller tenter effectivement l'aventure vers un autre grand club, parce que je pense que 2 ans plus tard, il n'aurait pas pu le faire.
Ouais.
On est bien d'accord. Messieurs, on clôture ce sujet.
On clôture.
On va se faire une petite pause musicale, et juste après, on va avoir notre dernier thème avec le fabuleux champion qu'est Liverpool, avec un invité, hein, Kevin.
Yes, avec Samy, le grand fan de Liverpool.
Eh ben, on est bien. Allez, à tout de suite sur RKS.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot, ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.
Ton visage me dit quelque chose. Je t'ai déjà croisé dans la ville. Je vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon tel. Quand tu veux t'appelles, je serai à l'hôtel. Dans un nuage de fumée, je te vois derrière les vitres teintées. Ce soir, je vais quitter le rinté. Regarde-moi dans les yeux. Je deviens amnésique. Je crois que ton corps me rappelle des souvenirs. Que je laisserai me descendre à petit feu. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone.
Show. Ils aiment le foot, ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.
Allez, on est de retour dans le RKS.
Hey, time show.
C'est reparti.
On va sortir les barbes à papa. Allez, c'est parti pour les manèges. Allez, notre dernier sujet avant le quiz. Vous l'avez vu, Liverpool a été sacré champion d'Angleterre la semaine dernière. Un Liverpool magnifique, ça faisait je crois depuis
30 ans.
Ouais. 1972 je crois exactement, ouais. Que Liverpool n'avait pas gagné ce championnat. On a justement
un invité avec nous qui va nous parler, nous aider à parler de ce grand champion. C'est Samy hein, qui est avec nous.
Samy, le plus grand fan de Liverpool que je connaisse.
Salut Samy. Samy. Salut Samy.
Bonjour à tous.
Salut.
Content alors Samy, heureux?
Ah ben, comme un champion, comme un champion.
Eh ben écoute, Samy, j'aimerais que tu nous dises pour toi quelle a été la clé de cette réussite et de la victoire de ce championnat.
Eh bien, la clé de la réussite, on m'a posé la question d'ailleurs en début de saison, est-ce que Liverpool peut succéder à Manchester City? Donc, en gardant la recette de l'année dernière et sur les plans lesquels s'est posé Jurgen Klopp, oui, pour moi, c'était une évidence parce qu'il y avait des signes forts. On a des entraîneurs qui ont connu des échecs, par exemple, qui ont eu la responsabilité de reprendre des équipes, mais qui ne montraient pas des signes favorables dans leur situation. Jurgen Klopp, il y a eu un progrès, il y a eu une régularité constante. Donc, sur la première année, il fait quand même une finale d'Europa League, même s'il la perd.
Ouais, c'est vrai.
Ensuite, il va en finale de Ligue des Champions. Et l'année suivante, champion d'Angleterre. Et on va résumer ça en trois phases. Jurgen Klopp, quand il arrive à Liverpool, il a gardé sa recette, le gegenpressing, c'est-à-dire le contre-pressing. Récupérer la balle le plus rapidement possible en limitant l'espace sur le terrain.
C'est vrai.
Il l'a fait avec les moyens du bord. Il a tenté. Ça a montré des signes favorables pour peut-être continuer le projet. Et ça a été le cas. Les dirigeants lui ont accordé cette confiance. Ensuite, il lui fallait des attaquants pour profiter de ces situations à la récupération du ballon. Il a fait venir Sadio Mané, il a fait venir Mohamed Salah, et pour des prix,
c'est plus raisonnable
quand même. On parle de 50 millions,
pas de 100 millions. Ouais, c'est vrai.
Ces joueurs-là, aujourd'hui, ils en valent le double.
Le double, t'es gentil. Hein.
Si ce n'est le triple. Pour Mané notamment.
Vu l'âge, ils peuvent partir quand même à 100-120 millions.
Oui, c'est vrai.
C'est fort possible.
Si le club veut profiter de la recette. On imagine, avec le football d'aujourd'hui, les prix ne veulent plus rien dire.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Donc, il y avait un attaquant aussi dans l'effectif que Brendan Rodgers avait fait venir, le coach qui était précédemment. Roberto Firmino. Qui a sublimé ces attaquants-là avec sa vision de jeu. C'est un faux neuf. Jurgen Klopp l'a transformé en faux neuf. À la base, à Hoffenheim, il jouait ailier et milieu offensif.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est un joueur assez polyvalent sur le front de l'attaque. Il a sublimé ses attaquants. Donc, en 1, le gegenpressing, le contre-pressing. La vitesse d'exécution en 2, les attaques rapides. Donc, ça a donné un football total de Jurgen Klopp qu'on connaissait à Dortmund, des buts à profusion.
Ouais. Donc pour toi, si je comprends bien, le réel principal de cette réussite, c'est quand même Jurgen Klopp.
Oh, clairement, oui.
Bah oui.
Clairement.
Oui.
On met un autre gars à sa place. On peut mettre Zinedine Zidane parce qu'on souligne le travail de Zinedine Zidane avec le Real Madrid. 3 Ligues des Champions de suite, des belles réussites au niveau des statistiques pour les victoires sur les matchs joués. Le nombre de défaites qui est assez faible. Donc, pour moi, Jurgen Klopp, c'est clairement la réussite. Vous pouvez mettre n'importe quel coach à Liverpool, ça n'aurait pas réussi. Déjà, la mentalité de Jurgen Klopp, elle colle avec le club.
Oui, c'est vrai.
Et avec les supporters. C'était l'homme de la situation.
C'est le chef d'orchestre. Hein. C'est le chef d'orchestre. Il a sublimé ses joueurs.
Toutes les conditions, en fait. Toutes les conditions réunies.
Mais tu vois, et la preuve, parce qu'il y a quand même eu pas mal de beaux entraîneurs, de grands entraîneurs qui sont passés dans ce club de Liverpool sans jamais justement y arriver. On a même cru que le club était maudit hein, quand Stephen Gerrard fait sa glissade contre Chelsea, alors que le titre semblait leur être promis. Alors, ils n'avaient pas autant d'avance que maintenant. Mais par contre, ils avaient à l'époque aussi une très belle équipe avec Suarez en tête, Coutinho, Gerrard, etc.
Ils gagnent une Ligue des Champions. Hein.
Non, pas avec cette équipe-là.
Avant.
Mais oui, par contre, c'est vrai que on sentait que pour les supporters de Liverpool, c'était important de gagner ce titre après autant d'années parce que Liverpool, c'est un club. Moi, c'est un club que j'ai toujours trouvé fantastique, formidable, qui inspire la sympathie. Parce que les supporters sont géniaux, parce que t'as toujours eu des joueurs qui t'inspiraient la sympathie. Gerrard, moi, c'est toujours un joueur que j'ai adoré. Et aujourd'hui, c'est le couronnement un petit peu de tout ça, avec un entraîneur que je trouve fantastique, charismatique, talentueux, tout ce que, enfin moi je peux dire tout le bien de Jürgen Klopp, parce que c'est un entraîneur absolument fantastique. Si j'étais un entraîneur, j'aimerais bien ressembler à Jürgen Klopp, parce que c'est, il est sympa, il vient en conférence de presse, il a le sourire, il répond aux questions, ouais. Alors qu'en face t'as Deschamps, t'as Deschamps qui font la tronche, qui te donnent pas les infos, qui répondent pas aux questions, presque qui te méprise. Et quand t'as en face des entraîneurs comme Klopp, c'est la fraîcheur, ils sont là, ils ont une casquette, enfin je veux dire, j'adore.
Et regarde la classe de sa réponse lorsqu'il sort contre l'Atlético dans des conditions qui sont, il est à domicile, il se fait sortir en prolongation, et quand les journalistes l'harponnent constamment de questions sur la manière dont a joué l'Atlético et qu'il dit je préfère pas répondre au risque d'être désagréable, il a une telle fraîcheur, une telle spontanéité, et il, pas un mot plus haut que l'autre, un peu à l'image de son équipe, hein, où t'as l'impression qu'il n'y a pas une tête qui dépasse, il n'y a pas un joueur, t'as l'impression que sincèrement tu joues Liverpool, t'en enlèves un, t'as l'impression que celui qui va le remplacer, il va faire aussi bien. Parfois, moi, quand je regardais Liverpool jouer, et je l'ai regardé à plusieurs reprises, alors que je fais pas ça avec toutes les équipes, hein, de regarder des matchs comme ça au hasard, parce que fermement supporter, j'ai mes équipes, et puis les autres, je les regarde un peu moins. Mais Liverpool, parfois, j'ai l'impression de jouer à la PlayStation. Mmh. Les passes, les transversales, elles partent de l'arrière-gauche jusqu'à l'avant-droit, ça tombe dans les pieds, les contrôles, ils sont bons. Il y a vraiment une cohésion, ça, les automatismes, les feintes de passes, ça regarde à gauche, ça part à droite, les joueurs, ils se connaissent. C'est magnifique. Franchement,
je pensais...
un chef-d'œuvre.
Franchement, je pensais pas qu'il pouvait exister une équipe parfaite, parce que j'ai pas connu les grands Barça de Cruyff ou le Milan de Capello, ou enfin j'en sais rien, mais j'ai pas connu des équipes comme ça. Je trouvais qu'il y avait toujours une équipe qui avait des défauts. Zidane, il a fait un très bon travail au Real Madrid, mais son équipe, elle avait quand même ses défauts aussi.
Et elle avait Ronaldo.
Et cette équipe de Liverpool, t'as l'impression qu'elle est parfaite. Et pourtant, elle est pas composée de joueurs absolument tous brillantissimes. Il y a des très très bons joueurs, il a dit, hein, Salah, Mané, Firmino,
c'est Van Dijk. Oui,
voilà. Mais par contre, il y a aussi ce que j'aime bien, c'est il y a des besogneux. Voilà, il y a des joueurs.
Wijnaldum.
Wijnaldum, Henderson.
Exceptionnel.
C'est des besogneux, c'est des gens, tu peux compter dessus. Ils mouillent le maillot, ils se battent sur le terrain, ils ne se regardent pas jouer, ils ne font pas des déclarations à la con.
Oui, mais est-ce que c'est pas aussi dans l'ADN de Liverpool, ça? Parce que moi, je me rappelle des joueurs comme Vladimir Smisser, qui était un joueur à la base, un joueur de lance assez basique, et qui s'est retrouvé là-bas avec justement un joueur de tempérament.
Il y a une certaine passion, il y a une certaine ferveur, et Jürgen Klopp avait déjà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est l'homme de la situation.
La rigueur allemande. Hein.
Et justement,
il a,
parce que...
Il a apporté une rigueur, une certaine rigueur qu'on connaît pour le football allemand.
Et justement, Samy, moi, il y a quelque chose quand même qui m'interroge. Là, c'est tout beau, tout rose. Mais à un moment donné, il y a des joueurs qui vont être sollicités. Comment tu vois, toi, les ingrédients pour que justement Liverpool perdure dans cette magnifique période?
Bah déjà... Le football à Liverpool, je vous l'ai décrit en deux phases, c'est-à-dire le contre-pressing, la vitesse d'exécution menée par les attaquants, et il y a eu le point faible. Il y avait un point faible, c'était la sécurité, la défense.
Oui.
Malgré que Liverpool marquait énormément de buts et avait une attaque de folie, il y avait un problème en défense. Jürgen Klopp a fini Virgil van Dijk,
oui.
Un défenseur prometteur qui joue à Southampton, qui avait une qualité athlétique. Il l'a fait venir et il a carrément explosé à Liverpool. Mm. Et ensuite, il y avait le problème au poste de gardien.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
On a vu les failles qu'il y a eu en finale de Ligue des Champions. C'est
un joueur.
Même, il y avait quelques bourdes en championnat avec Simon Mignolet et ensuite Laurius Karius. Mm. Il a fait venir Alisson. Mm.
Bon, qui est un des meilleurs gardiens anglais aujourd'hui.
Oui, le meilleur, même le meilleur pour moi. Il y a pas, à part Oblak peut-être. Y a pas
la question qu'il faut se poser, Samy, aujourd'hui.
Mais bien sûr, non, mais la question maintenant, c'est que ces joueurs-là, ils ont explosé à Liverpool. Ils en valaient 50, 70 pour certains. Maintenant, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir renouveler cette envie de gagner. Mmh. Jürgen Klopp, il l'a. Je suis d'accord. Il faut qu'il mette tout le monde dans le même sac. Et c'est pour ça qu'il faut parler de réussite collective.
Est-ce que c'est pas le plus difficile, souvent, Samy, c'est de repartir? De remotiver tout le monde. Est-ce que c'est pas le bon moment? Alors je pose peut-être une mauvaise question, mais est-ce que c'est pas le bon moment pour Klopp de partir
à la Zidane?
Si c'est pour revenir, ça sert à rien.
Ouais, vraiment mauvaise ta question.
Mais non, mais parce quelque que part, quand t'as autant, quand t'as autant gagné, quand tu touches la perfection comme il la touche, est-ce que tu te dis bon, écoute, le problème c'est que là, tu sais, il y a une citation dans un film Batman que j'aime beaucoup, qui est soit on meurt en héros.
C'est du grand cinéma,
pour se faire endosser la peau du méchant. Et c'est vrai que c'est un truc qui s'applique aux entraîneurs. C'est-à-dire que tu peux avoir des entraîneurs qui sont géniaux, super bons, qui gagnent. Dès qu'ils gagnent plus, on n'a qu'une envie, c'est de les virer. Et est-ce que, moi, je serais triste, tu vois, de voir Klopp se faire virer, comme Ranieri, par exemple. Tu vois,
après. Je suis entièrement d'accord.
Ouais, prolonger quand même, ça me rassure un peu. Hein.
Oui, oui.
Ouais, ça veut plus rien dire aujourd'hui dans le football. Hein.
Oui,
s'il faut le mettre dehors, ils le mettront.
Il peut s'essouffler, en fait. Le succès, il peut s'essouffler. Parce que quand on arrive très haut, il peut arriver plus bas après.
Ouais.
C'est difficile d'aller plus haut encore. Donc oui, le défi a été relevé, il a été champion, là où tout le monde a échoué.
Et justement...
La Ligue des champions, le championnat au bout de 30 ans. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux?
Je pense pas grand-chose, hormis gagner la Ligue des champions.
Rentrer dans la légende, il faudrait continuer. Après, moi, j'avais...
Construire un empire, passer devant Manchester United, ils ont un titre, Liverpool 19.
Ça serait bien.
Samy, si je peux me permettre une petite question rapide. Quand je regarde un peu ce qu'a fait Liverpool, où tu sais, il y a ce premier match où ils ont leur première défaite et où tout le monde dit bon, Klopp, il disait, je savais que ça arriverait, mais je voulais que ça arrive le plus tard possible. Après, les prestations qu'il y a eu, il y a eu l'élimination en Ligue des Champions, il y a eu des matchs un peu plus compliqués, récemment des matchs nuls. Est-ce qu'on se dit pas, ouf, on arrive à la fin, il reste 6 ou 7 matchs, et heureusement, quelque part, pour pas ternir cette saison, qu'il n'y avait pas 50 ou 60 matchs au travers de cette saison-là. Parce que moi, mon ressenti, c'est qu'il y a quand même une petite perte de vitesse, ce qui me laisse craindre éventuellement un départ un peu plus compliqué l'année prochaine. Qu'est-ce que t'en penses ?
Oh non, mais ça c'est clair. Les joueurs, ils ont eu une coupure de rythme. Donc, c'est jamais facile de reprendre le rythme. Et c'est une équipe quand même qui a besoin de jouer, d'engager des matchs. Moi, je pensais justement, avant que Liverpool joue sur plusieurs compétitions, qu'ils n'auraient pas été capables de jouer sur plusieurs tableaux. Parce que ça demande quand même des efforts physiques, etc.
Oui, ils jouent au très haut niveau.
C'est clair qu'il y a des équipes qui seront beaucoup plus facilitées, comme les équipes qui ne vont pas jouer, par exemple, des compétitions européennes, elles seront plus compétentes sur le championnat, par exemple.
Oui, plus fortes sur la fin, comme on voit Arsenal, les clubs comme
après,
ça, quand même.
J'ai pu voir que la CAN a été reportée en 2022.
Oui. Hier, ouais, ils ont pris la décision.
Aussi,
Et pour clore le débat, on a parlé de Klopp, mais les joueurs aujourd'hui, des joueurs comme Mohamed Salah, comme Sadio Mané, est-ce qu'ils n'ont pas envie, eux aussi, finalement, après avoir accompli tout ça, de partir?
C'est une question qui rejoint la précédente qui a été posée, comme quoi, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont vouloir rester et poursuivre l'aventure? Franchement, la réponse, je ne l'ai pas vraiment, parce que... Les Salah, les Mané, ils ont des rêves. Ils ont envie de jouer pour le Real Madrid, pour Zidane. Donc, c'est clair, ils arrivent à l'âge de 30 ans, ils sont à 28 ans. Ils ont envie d'un nouveau défi, réaliser leur rêve d'enfant. C'est clair et net. Mais quand on réussit dans une équipe où tout va bien, est-ce que vous avez envie d'aller jouer ailleurs?
Mais moi, c'est ce que j'étais en train de penser. Je dis, moi, j'aurais pas envie de partir à leur place.
Coutinho, c'est l'exemple type.
Oui.
Ça servira d'exemple pour les autres joueurs.
C'est vrai.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Il lui a dit, tu pars ailleurs, tu auras une statue. Tu restes à Liverpool, tu auras une statue. Tu pars ailleurs, tu seras un joueur
lambda,
mais tu seras juste une pièce.
Et est-ce que tu penses, justement, quand tu dis ça, est-ce que tu penses des joueurs comme Salah ou Mané, dans un autre club, ils réussiraient autant qu'à Liverpool? C'est pas dit, hein?
C'est pas dit, parce qu'il y a une certaine philosophie à Liverpool, mais quand même, ils ont un certain potentiel et un certain talent. Donc, je me dis quand même qu'ils peuvent réussir. Mieux qu'à Liverpool, peut-être pas, mais ils peuvent apporter leur touche et leur potentiel. C'est clair et net. Le défi pour Liverpool, après, ce sera de les remplacer et de trouver des joueurs avec les mêmes qualités, mais leur faire comprendre la philosophie. Et pour moi, il faut partir sur des joueurs plus jeunes.
Oui, je suis d'accord.
Bah, ils voulaient Werner, là, ça n'a pas abouti, mais ça faisait partie.
Bah, écoutez, je crois que Samy nous a... On a tous été d'accord sur ce sujet.
Non, mais c'était pour finir en beauté, sur un truc où on était tous d'accord.
Et puis, maintenant, on verra dans l'avenir ce que nous donne, ça nous donne raison.
Je vais juste conclure sur un truc. Je vais dire merci, même s'ils ne m'entendent pas, mais merci à Liverpool de nous montrer aussi qu'on peut gagner
en jouant bien et qu'on n'est pas obligé d'être toujours dans le calcul, dans dire bah voilà, il ouais, faut.
Quelle spontanéité de cette équipe, c'est vrai.
Hein. Non, mais c'est vrai. Et on peut gagner en jouant bien. On peut gagner et être sympathique. On n'est pas obligé de casser les jambes de tout le monde pour pouvoir gagner.
Exactement.
Ça, c'est plutôt les Italiens, mais après, c'est.
Non, les Italiens, ils jettent par terre.
Les Italiens qui cassent le jeu. Et j'ai envie de souligner une équipe, enfin, mettre la lumière sur une équipe qui est comme ça, qui joue pour le plaisir et qui nous a fait une belle prestation, c'était le Japon.
Oui, c'est vrai.
Ouais, je suis entièrement. Oui. Mais c'est pareil, c'est l'esprit.
Oui.
C'est ça. Ils connaissent pas du tout le. Et c'est pour ça qu'ils
connaissent rien au football.
Ils gagneront pas quelque chose, un trophée majeur.
Non, mais c'est comme l'Atalanta. Il y a des clubs comme ça qui font du bien en ce moment, qui sont frais, comme l'a été l'Ajax par le passé. Voilà, on a besoin aussi de clubs comme ça, des clubs sans strass, enfin, avec des stars, mais des stars beaucoup plus dans l'ombre, tapis dans l'ombre, derrière l'enseigne, derrière le club. Et ça, c'est beau, c'est du foot, c'est ce qu'on aime. Quoi.
Et derrière l'entraîneur, je pense.
Ouais, c'est aussi.
C'est vrai.
D'ailleurs, les gars, il y a deux belles affiches. Vous avez parlé de deux équipes, vous avez parlé de Liverpool.
Ouais.
Et vous avez parlé de l'Atalanta, donc il y a deux belles affiches, ça vous allez regarder.
Ouais.
Atalanta-Napoli.
C'est vrai qu'il y a l'Atalanta-Napoli ce soir.
Ça va être beau ça.
Ouais.
Et ben, on va tous être devant nos écrans.
Et City-Liverpool. Ah ben ça oui, parce que j'ai envie de voir les joueurs de City faire la
surtout, un vrai match de foot depuis longtemps.
Oui, c'est vrai.
Bon,
merci Samy.
Merci beaucoup, Samy. Merci à vous.
À bientôt. Voilà. On clôt le débat sur Liverpool. Et on va finir cette émission par un petit quiz. Je vous assure, j'aurais aimé qu'il y ait la vidéo. Je crois que j'aurais utilisé d'Arsenal. Alors,
allez,
ce petit quiz.
Pinez, Pierre.
Ce petit quiz, c'est simple. Il va y avoir Pierre d'un côté, Kevin de l'autre.
Voilà.
C'est le qui suis-je.
Allez.
D'accord.
Oh putain.
Est-ce que monsieur, vous êtes prêt? C'est simple. Je vais donner des petites anecdotes, des petites phrases. Le premier qui a trouvé le nom de cette.
Le nom, juste le nom.
Nom et prénom. Ah, parce qu'il y en a des difficiles. Nom et prénom, ça m'intéresse.
Allez,
est-ce que vous êtes prêts pour le premier?
Bon.
Alors, je suis un ancien footballeur pro. J'ai fait les beaux jours d'un club d'une petite ville, sous la houlette d'un entraîneur atypique.
Dugarry.
Non.
Non.
Non, parce qu'il a fait les beaux jours d'un club, lui, un jour. Ou...
Il a...
Faut le dire.
Bon, allez, vas-y.
D'accord. Est-ce que vous voyez déjà à peu près quel club et quel entraîneur?
Non, c'est non. Trop vague.
Bon. Une de mes spécialités était la bicyclette. J'ai même
Papin.
Été. Non, pas encore.
Ah.
Mes spécialités la bicyclette. J'ai même été international à plusieurs reprises. Mon numéro dans le dos était le 7. Mon prénom est le célèbre. Et comme le célèbre chanteur, et mon nom de famille peut se voir sur un œil si je prends une bonne pêche.
Oh. Attends, bicyclette, le numéro 7. Donne-nous la nationalité.
Français.
Ouais.
Joueur d'Auxerre.
Pires.
Entraîné sous Giroud.
Non.
Quand je prends une pêche, j'ai quoi sur le coin d'un œil?
Un œil au beurre noir.
J'ai un
coquard. Ah, coquard.
Christophe coquard.
Mais non,
mais
je l'ai
reconnu
là. Oh, il est allé chercher coquard. Oh non. T'as bientôt va nous dire Christophe Delmotte.
C'est ça. Oh là 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 là.
J'ai même poussé plus loin. Christophe coquard. Mais est-ce que vous saviez qu'il avait quand même fait 17 sélections en équipe de France, Christophe coquard?
Non, mais mon dieu, mais on n'était pas nés là.
C'est quand même incroyable.
Incroyable.
Bon, un point pour moi. Allez.
Non, mais un point pour toi. Il te l'a donné. Il t'a dit t'as quoi au coin de l'œil? Un point pour Delvin.
Je peux vous assurer. C'est des trucs sortis du placard que j'ai pris.
Pas des trucs trop inconnus.
Attention. Ah si, là moi ça me fait rire. Et je peux vous dire que.
Vas-y.
Que elle m'a fait rêver.
Ah, une femme?
C'est une femme?
Il faut de la parité.
Putain, non. Sonia Bonpastor.
Non, garçon manqué de la banlieue parisienne. Elle découvre le football
Marois en bas
de son immeuble. Après... Après une formation à Juvisy, elle rejoint les États-Unis pour entamer une carrière de buteuse.
Morgane.
Elle revient en France pour devenir consultante sur la télé. D'accord. Et elle est comparée...
Anne-Laure Bonnet.
Non, et elle est comparée à JPP, au féminin.
Ah ouais. Ah, Eugénie Le Sommaire.
Mais non, bien plus vieux. Elle a un nom qui fait rire.
Je ne connais pas les vieux, moi. Putain,
vous voyez
j'ai du mal avec les femmes, mais alors en plus. Si
son prénom, c'est Marinette.
Ah oui, elle a joué, c'est l'attaquante là. Marinette.
C'est le JPP, c'est celle qui a le plus de sélections.
Oui, sélection. Oui, c'est la meilleure buteuse.
Marinette,
Pignon.
Pichon. Marinette Pichon. T'étais pas né?
Non, j'étais pas né.
Marinette Pichon.
Oui.
112 sélections en équipe de France féminine.
Bon, la prochaine fois, c'est toi qui fais le quiz.
En fait, il y a que lui qui a la réponse.
Non, là, vous allez
attends,
voir.
Attends, la prochaine émission, j'ai avec mon père.
Coup de fil à un ami.
Voilà.
C'est pas mal.
Ah, c'est clair.
Allez, ma troisième question. Ouais. Je suis une ville de l'Est de la France.
Une ville ?
Ouais, une ville. On le sait très peu, mais je suis la plus petite ville d'un club pro.
Strasbourg.
La plus petite ville d'un club pro, Strasbourg, il y a plus de 100 000 habitants. La plus petite ville d'un club pro, avec seulement 4 000 habitants.
Oh.
Ouais. Mon nom peut rugir.
C'est pas libre.
Et mes couleurs éblouir.
Oh là là.
Amiens, non.
Je suis le cœur des usines automobiles françaises.
Peugeot, Sochaux.
Sochaux.
Oh, bien joué.
Sochaux. Est-ce que vous saviez que Sochaux, c'est seulement 4000 habitants, c'est plus petit que Guingamp, ouais. C'est plus petit qu'Auxerre. Et c'est le club, alors on l'associe souvent à Montbéliard.
Ouais, c'est vrai.
Qui a une plus grande ville.
C'est Sochaux, Montbéliard.
Mais vous imaginez Sochaux, les joueurs qu'ils ont sortis ?
Ouais. Ouais, c'est clair.
C'est fou, hein.
Ouais, Mika Elisabeth.
En fait, là-bas, il n'y a pas de mairie, il y a juste un club de foot. Il n'y a pas de boulangerie.
Il y a plus de place dans le stade que d'habitants dans la ville.
C'est magnifique.
Mais c'est Sochaux.
Ouais.
Allez, là,
Pierre-Alain
Fou. Là, cette fois, je peux vous assurer qu'on passe sur du sérieux.
Vas-y.
Ah, bon, merci.
Allez, je suis un jeune homme, âgé de 53 ans. Je suis né dans le nord de l'Italie.
Oh, oh bah ça, c'est pour Kevin.
Claude Barzotti. Allez, c'est bon, j'arrête.
Claude Barzotti.
En plus, il est né en Belgique.
Ma finesse et ma technique ont fait ma renommée. Les recoins de chaque cage n'ont plus de secret.
Pirlo.
On n'est pas loin. On croit souvent que j'ai joué uniquement pour la vieille dame. Mais j'ai également joué au Milan, à Bologne et à Brescia.
Roberto Baggio.
Ah, mais tu vas chez lui aussi.
Roberto Baggio, c'est quand même quelqu'un qui est...
Ouais.
Qui...
Le plus grand talent italien depuis longtemps.
Tu penses ?
Oui, parce que...
Alexandro Del Piero, non ?
Non, il a jamais été à son niveau. Baggio, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel sur un terrain. Il a été Ballon d'Or, c'est pas rien.
Donc, Ballon d'Or en 1992.
Ouais.
Dernier Ballon d'Or italien.
Ouais. Non, Cannavaro.
Ça, c'était pour Kevin.
Cannavaro, on lui a donné, il n'a pas été...
Autre question.
La dernière.
Bon, même si j'ai gagné, du coup.
Non, mais l'autre, elle comptait pas. Attends, il 3. T'a donné Coquard, tu rigoles.
Il y a un trouvé, Christophe Coquard.
Il y a 1-0, quoi. Point barre.
Joueur d'actualité.
Ouais.
D'accord. Professionnel français.
Ouais.
À 57 ans.
Non, j'ai dit joueur d'actualité.
Ok. Ouais.
Professionnel français.
Tout à l'heure, t'as dit jeune, 53 ans. Merci.
Étant passé par 3, le Paris Saint-Germain. J'ai décidé, après de nombreuses années, de prendre enfin ma retraite. Il y avait plus d'herbe sur la pelouse que de cheveux sur mon crâne.
Jallet.
Christophe Jallet.
Désolé,
Parisien,
Pierre.
Sérieux, t'es...
Trop
non, mais Pierre, tu m'as déçu, là, j'ai fait celle-là pour toi, il y avait Roberto
Baggio. Et je l'ai battu à plein de coutures.
Au 5-1, c'est... pour la prochaine fois, c'est toi qui prépare le...
Mais en plus, attends, Jallet, là, il devait pas le... Il y avait pas eu un truc où il devait le récupérer? Non, c'était Dubois.
Non,
Léo Dubois, c'est au Paris Saint-Germain.
Oui,
mais tu sais, le Paris Saint-Germain, ils vont prendre Jallet pour un joueur français. Non, mais ils sont capables à tout, il faut le dire.
Non, allez, c'est bon. C'est fini.
C'était la cinquième.
J'ai gagné.
C'était la cinquième question. Victoire écrasante de votre animateur de rien à foutre. Heureusement, il chante pas l'hymne italien, t'imagines ?
Incroyable.
Bon, eh ben messieurs, notre première émission.
Ah, c'était bien.
Touche à sa fin.
On remet ça quand vous
c'était
voulez.
C'était top.
La semaine prochaine.
La semaine prochaine, on remet
allez,
ça.
La semaine prochaine. Eh ben, allez. Hein ? Tu seras en direct des cocotiers et des vaillinés.
Je serai en direct des cocotiers et des vaillinés avec vous. Hein. Mais je serai là quand même.
Ah, avec nous ? Bah écoute, c'est une invitation. Pourquoi pas ? Il faut que j'en parle.
On fait des délocalisations au Cap d'Agde.
Voilà, délocalisations au Cap.
On va jouer contre les sudistes.
C'est peu vêtu. Il faut être peu vêtu là-bas. Il y a le FC nudiste.
Le FC nudiste.
C'est le FC nudiste et ça se joue dans un club célèbre là-bas.
Ouais.
Voilà.
D'accord.
Messieurs, merci à vous. Merci Pierre.
Merci à toi.
Merci Kevin. Merci Melvin.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Et merci à RKS pour cette belle émission qui nous laisse faire.
Merci à RKS, à Jérôme pour la belle émission. Ouais, et puis je peux vous assurer, on va vous régaler parce qu'on a un matos d'enfer.
Ouais, c'est vrai.
Et on vous prépare plein de surprises.
C'est clair. Et peut-être que Pierre gagnera la prochaine fois.
Allez, merci à tous. Et on vous attend encore. Et suivez bien RKS. Salut.
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 Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin
dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.